Professeur, bonjour.
Bonjour.
Le point de départ de la crise entre les deux pays, c'est le coup d'État d'il y a un an au Niger. La CDAO a pris de lourdes sanctions contre les putschistes de Niamey. Est-ce que c'était justifié ou est-ce que c'était excessif ?
Les sanctions sont justifiées, même si cela a un caractère excessif, parce que nous appartenons à une communauté qui a des valeurs politiques et qui condamne les changements anticonstitutionnels. Mais ces sanctions visent généralement les auteurs du coup d'État, accompagnés d'un soutien pour la préparation au retour à l'ordre constitutionnel dans un délai convenu entre les différents acteurs. Mais dans le cas d'espèce, le caractère excessif résulte de ce que les frontières ont été fermées, ce qui impacte les populations étant donné qu'il y a des échanges commerciaux entre ces différents États. Et il y a aussi la menace du recours à la force qui a déjà été appliquée dans certains pays de la CEDEAO, dont entre autres la Sierra Leone, après un coup d'État en 1998. Ça a été le cas également en Gambie avec Yahya Jammeh. Et pour les autres États tels que le Mali, ce n'est pas des négociations qu'après un coup d'État, on revient à l'ordre constitutionnel. Ce qui n'a pas été le cas, à mon avis, en ce qui concerne le Niger. D'où le caractère qui me paraît un peu excessif, même si ces coups d'État s'inscrivent déjà dans les protocoles qui organisent la vie communautaire.
C'est-à-dire que pour vous, il était excessif de fermer toutes les frontières avec le Niger ?
Puisque cela impacte les populations pour lesquelles on devrait travailler. Si on veut un retour à l'ordre constitutionnel, c'est pour garantir le bien-être des populations. Mais la fermeture des frontières, étant donné qu'il y a des échanges commerciaux, ces populations ne peuvent pas se déplacer, ces populations ne peuvent pas avoir accès à certains biens de consommation qui viennent généralement des pays côtiers. Donc ça veut dire que c'est tout le pays qui est pris en otage. Et nécessairement, il y aura un soutien de ces populations à leurs gouvernants plutôt qu'une réaction pour les contraindre à renoncer au pouvoir puisqu'ils n'ont pas encore malheureusement cette culture politique.
Alors on se souvient, il y a un an, l'un des chefs d'État les plus va-t-en-guerre de la CDAO contre les putschistes du Niger, c'était le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu. Pourquoi a-t-il reculé finalement ?
Je pense qu'il n'a pas pris l'ampleur de la situation parce que le Niger est également frontalier avec le Nigeria. Il y a de très bonnes relations entre les populations de part et d'autre des frontières au nord du Nigeria et au sud du Niger. Même le Sénat de son propre pays n'était pas d'accord avec cette mesure. Il faut aller avec une graduation dans l'exécution ou la mise en œuvre des sanctions. Peut-être qu'il manquait d'expérience puisque dès qu'il est arrivé et élu président de la CEDEAO, il a décidé de recourir à la force pour empêcher les coups d'État. Le cas s'est produit, il n'a pas voulu se déjuger, mais il n'a pas tenu compte de l'opinion publique de son propre pays et des intérêts également de sa population, puisqu'il y a des échanges entre les populations du nord du Nigeria et du sud du Niger, puisque c'est des pays frontaliers. Et c'est ces populations qui ont également protesté contre l'application de la force pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Généralement, c'est exceptionnel qu'on utilise la force. D'habitude, on trouve une solution. Mais il y a le fait aussi qu'ils ont exigé le retour au pouvoir de Bazoumi. Il est vrai, ça a été effectif en Gambie, ça a été le cas en Sierra Leone. Mais il faut tenir compte également de la situation qui se prévalait à l'époque au Niger, à mon avis.
Pensez-vous que le président Talon n'aurait pas dû emboîter le pas du président Bola Tinubu ?
Étant donné que le Bénin est membre de la CEDEAO, qui n'est pas seul à prendre la décision, même s'il est mis en minorité, que la décision est prise, il doit, à mon avis, respecter une telle décision, puisque nous reprochons généralement à nos États de ne pas respecter leurs engagements internationaux. Par exemple, il y a eu des décisions de la Cour de justice de l'Union africaine contre le Bénin, que le Bénin n'a pas voulu respecter, et il y a eu beaucoup de protestations, parce que nous sommes membres de ces organisations, nous devons respecter ces engagements et les décisions qui sont prises par ces organisations. Et je crois que c'est dans ce cas que se situe son respect de la décision de fermeture de frontières prise par la CEDEAO. Il aurait peut-être pu négocier une certaine flexibilité en tenant compte de la nécessité d'aider la population, puisque le port de Cotonou est celui par lequel transitent tous les biens de consommation à destination du Niger. On aurait pu trouver alors des solutions palliatives pour éviter une sanction aussi excessive, à mon avis.
En janvier dernier, le Niger, le Mali et le Burkina ont annoncé leur intention de quitter la CEDEAO. Un mois plus tard, celle-ci a annulé les sanctions contre ces trois pays et rouvert ses frontières avec le Niger. Comment expliquez-vous que le Niger ait accepté de rouvrir sa frontière avec le Nigeria et pas avec le Bénin?
Je vous ai parlé tantôt de la proximité entre le Nigeria et le Niger. Les anciens présidents du Nigeria sont allés aussi en médiation parce qu'ils ont dissuadé le président Bola Tinubu de mettre en œuvre la décision d'intervenir militairement au Niger. Cela a amené les dirigeants du Niger à penser que le Nigeria n'est pas leur ennemi et ils ne peuvent pas s'opposer au grand Nigeria. Mais le Bénin est le maillon faible de la chaîne et il y a une sanction directe qui est que le pipeline qui devait évacuer leur pétrole devait transité par le Bénin, rapporter des sous. Il y a le fait que le port de Cotonou rapporte également au Bénin beaucoup de ressources, à peu près 20 à 30% de ces ressources grâce au transit des produits en destination du Niger. Je crois que nous sommes plus faibles que le Nigeria et on a voulu nous tirer davantage les oreilles. C'est comme ça qu'il faudrait le comprendre parce qu'il n'y a pas de raison, une fois que le Bénin a décidé d'ouvrir les frontières, que le Niger n'en fasse pas autant en évoquant des problèmes de sécurité, de la présence de bases militaires qui constituerait une menace pour la sécurité d'un nouveau dirigeant de ce pays frère.
Oui, pour justifier cette frontière toujours fermée avec le Bénin, le Premier ministre du Niger a accusé le Bénin d'abriter, je cite, « des bases militaires où l'on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser le Niger ».
Je crois que cet argument, à mon avis, n'est pas fondé. En tout cas, je n'ai pas d'éléments concrets pour soutenir le point de vue du Premier ministre du Niger. C'est peut-être un argument pour justifier le maintien de la fermeture des frontières.
Alors, vu la frontière fermée entre le Niger et le Bénin, une partie du trafic de marchandises en provenance ou à destination du Niger ne passe plus par le Bénin mais par le Togo. Est-ce que dès le mois d'août dernier, ce pays, le Togo, n'a pas adopté une attitude différente des autres pays de la CEDEAO à l'égard du régime putschiste du Niger?
Le Togo n'a pas la même adhésion aux valeurs de la CEDEAO. Je voudrais rappeler que le Togo fait partie des pays qui refusent la limitation du nombre de mandats des présidents de la République souhaité par un projet de protocole au niveau de la CEDEAO. Je voudrais rappeler que la CEDEAO, en son temps, en 2005, avait également essayé de s'opposer à l'arrivée au pouvoir du président Faure Gnassingbé, ministre des Travaux publics, à la tête de l'État, alors qu'il était prévu dans la Constitution que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait lui succéder.
Fambaré Gnatchaba.
Gnatchaba, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc il y a cette frustration, certainement, qui explique cette attitude de complaisance vis-à-vis du Niger de la part du Togo.
Est-ce que derrière ce bras de fer actuel entre le Bénin et le Niger, il n'y a pas un autre bras de fer, plus ancien historiquement, entre le Bénin et le Togo?
Vous savez que nous avons toujours des difficultés avec le Togo, puisque vous savez qu'une ancienne ministre de la justice et garde des Sceaux du Bénin, Madougou Riquet, qui fut conseiller spécial du président Faure, est actuellement en détention pour avoir voulu être candidate à l'élection présidentielle
au Bénin,
condamnée pour terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et les interventions des présidents togolais, sénégalais, même ivoiriens n'y ont rien fait. Il y a peut-être également cette frustration qui peut justifier ce coup que joue le Togo au Bénin. Certainement.
La semaine dernière, deux anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont été reçus à Niamey par le général Tiani, le numéro 1 du régime militaire nigérien. Cela est-il de bon augure à votre avis?
Qu'il ait accepté de recevoir des anciens présidents de la République est déjà de bon augure. Que les anciens présidents de la République, à la différence de ce qu'ont fait les anciens présidents du Nigeria, n'aient pas exigé le retour au pouvoir de Bazoum, cela permet, à mon avis, de discuter, d'écouter les arguments des uns et des autres et de voir les conséquences nécessaires qu'il est possible de faire pour retrouver la quiétude entre les deux États, puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et je crois que les anciens présidents Yayi Boni et Nicéphore Dieudonné Soglo ont rendu compte au président Talon des résultats de leur mission. Et je crois savoir qu'il y aura eu l'arrivée certainement d'une délégation du Niger pour que au moins les voies de la négociation soient ouvertes et que les concessions nécessaires puissent être faites afin que les choses redeviennent normales.
Professeur, merci.